Je suis femme, reine et dieu.
Dans son bréviaire des politiciens, le cardinal Mazarin donne des conseils pour briller en politique, avec une règle d'or, faire preuve de pragmatisme. Toute sa vie, ce fut la ligne de conduite de Cléopâtre. D'abord, elle avait su s'adapter à César.
Avec César, qui était plutôt triste, elle savait être sévère.
Et puis ensuite, sans César, elle a su faire autrement.
Avec Antoine, force de la nature, le contraire d'un intellectuel, elle banquette, elle offre des fêtes, elle fait des farces, chante, danse, rit, boit, s'esclave aux obscénités de son amant. Bref, elle s'arrange pour lui plaire.
Face aux hommes de pouvoir, Cléopâtre a su naviguer différemment pour protéger son destin. Et enfin, quand la partie fut perdue, le pragmatisme lui ordonna de se donner la mort. Vous allez comprendre pourquoi.
Les murs de Paris, et bientôt de toute la France, vont se couvrir d'affiches gigantesques où, en couleur de luxe, s'inscrira un nom, un seul, mais quel nom ? Cléopâtre.
À la fin de l'épisode précédent, nous avons laissé Antoine et Cléopâtre en Turquie, où le pragmatisme dicte à Cléopâtre la marche à suivre. Former un couple royal avec Antoine, dans l'espoir d'accomplir son rêve. Donner naissance à un royaume égypto-romain dont elle serait la reine. Mais la politique est une affaire capricieuse et la guerre toujours pleine d'incertitudes. Au final, cette ville d'Alexandrie, où se sont réfugiés les deux amants, va devenir leur tombeau.
Il semble qu'une fois de plus, Cléopâtre soit déjà loin de moi et qu'il faille que je cours après elle.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Cléopâtre, le génie politique. Quatrième épisode, mourir plutôt que subir.
La guerre !
Laisse-les parler, laisse-les négocier tant qu'ils veulent. Le temps est de notre côté, on ne peut que devenir plus fort.
Je t'aime, divine Cléopâtre, je t'aime parce que tu es toi.
Ce nouvel épisode commence sous les auspices d'une vie inimitable. Après leur alliance nouée à Tarse, Antoine et Cléopâtre se sont installés à Alexandrie, où ils mènent une existence de plaisir et d'abondance. Une vie démesurée qui a imprégné les mémoires.
Ah, monsieur, c'était le monde à l'envers. Les jours noirs de sommeil et les nuits blanches.
8 sangliers rôtis au petit déjeuner et seulement pour 12 personnes. Est-ce vrai ?
8 sangliers ? Mais c'est même pas la peine d'en parler. C'est une miette à côté de tant d'autres festins monstrueux.
Marc-Antoine et Cléopâtre mènent une vie fastueuse à Alexandrie pendant l'hiver 41-40 avant notre ère.
L'historien Christian-Georges Schwenzel.
Ils fondent une association, une sorte de club appelé le club des amis métobies, c'est-à-dire de ceux qui vivent une vie inimitable. Alors c'est une vie inimitable pour le commun des mortels, parce que leur vie est calquée sur la vie des déesses et des dieux dans l'Olympe. Donc ils vivent au milieu d'un faste absolu, ils font en gros tout ce qui leur passe par la tête, ce sont des festins à profusion. On raconte que des sangliers étaient sans cesse cuits à la broche dans les cuisines du palais, mais pas au même degré de cuisson pour qu'il y en ait toujours un qui soit à point et prêt au cas où Marc-Antoine aurait eu envie d'en manger. Et puis, alors, y a aussi, enfin, ils font tout ce qui leur passe par la tête. Hein. Ils peuvent aller à la chasse, à la pêche. Parfois, ils se déguisent en serviteurs pour aller s'encanailler dans les bas-fonds d'Alexandrie. Mais attention, c'est ce que raconte Plutarque. On ne sait pas si c'est vrai. La sortie dans les bas-fonds d'Alexandrie, c'est quand même un stéréotype en quelque sorte, hein, de la débauche et de la débauche des tyrans. Suétone racontera la même chose de l'empereur Néron. Donc il y a quand même beaucoup de stéréotypes, même si le faste, ce qu'on appelait la tryphée en grec à l'époque hellénistique, fait partie des qualités officielles revendiquées par la monarchie des Ptolémées. Ce sont des dieux, ils vivent comme des dieux.
Pline l'Ancien, Histoire naturelle, 1er siècle de notre ère. Cléopâtre fit servir un dîner somptueux, mais ordinaire. Comme Antoine se moquait d'elle et lui demandait le compte de ses dépenses, la reine répondit que ce n'était qu'un hors-d'œuvre et que le dîner coûterait bien le prix convenu et qu'elle seule mangerait les 10 000 sesterces. Elle commanda le second service. Suivant ses instructions, ses serviteurs déposèrent devant elle un seul vase, rempli d'un violent vinaigre dont l'acidité dissout les perles. Alors qu'Antoine lui demandait ce qu'elle allait faire, elle détacha une des perles de ses boucles d'oreilles, la plongea dans le vinaigre, et quand elle fut dissoute, elle l'avala.
À quoi ressemblent les premiers mois à Alexandrie entre Marc-Antoine et Cléopâtre?
Alors c'est extrêmement difficile à savoir, parce que alors là, on tombe en plein dans le récit des ragots.
Maurice Sartre, historien.
Et tous les auteurs de l'Antiquité, on peut dire tous sans aucune exception, ont repris la propagande d'Octave, donc une propagande qui va se développer à partir de 33-32, donc 6 ou 7 ans plus tard, avec des choses fausses, des énormités d'ailleurs, y compris que Antoine aurait projeté d'installer la capitale de l'Empire de Rome à Alexandrie. Je suis sûr que c'est une idée qui n'est jamais venue à l'esprit d'Antoine. Il sait très bien que le pouvoir est à Rome, et Cléopâtre le sait aussi. Mais on va surtout multiplier les anecdotes dont on détourne le sens. C'est-à-dire qu'on va raconter l'histoire de la perle. Bon, elle peut dépenser plus de 10 millions de sesterces pour un seul repas, en faisant dissoudre une perle d'un prix exorbitant dans le vinaigre. Parce qu'ils avaient fait un pari avec Antoine, qui allait dépenser le plus pour recevoir l'autre. Et elle prend une de ses boucles d'oreilles, elle fait fondre dans le vinaigre.
Qu'elle boit ensuite, soi-disant.
Oui, qu'elle boit, bien entendu. Ben oui, puisque c'était un repas, ça va de soi. Bon, anecdote qui est, encore une fois, incomprise. Admettons qu'elle soit réelle, l'anecdote. C'est un autre exemple de cette truffée royale, de cette abondance, de cette manière qu'a un roi de vivre au-dessus. Les rois sont prêts, comme dit une épigramme de l'Antiquité, les rois sont comme des dieux. Ils sont isothéoi, ils sont comme des dieux. Il ne faut pas oublier que les souverains hellénistiques, Cléopâtre comme les autres, sont divinisés. Ça ne veut pas dire que les fidèles croyaient qu'ils étaient divinisés et devenaient immortels, non, mais ils sont à l'égal. D'une certaine manière, ils ont quelque chose de divin. Eh bien, cette abondance, ce souci de paraître, de même dans le costume, pourquoi elle porte la robe d'Isis? Bien sûr, tout le monde sait qu'elle n'est pas Isis, mais elle seule a le droit de porter la robe d'Isis. Donc, cette vie inimitable et toutes les anecdotes qui se rattachent, je crois, vont toutes dans le même sens. Elle va montrer à Antoine ce que c'est qu'une vie royale. Et lui, évidemment, il reste bouche bée devant tant d'abondance. Et puis, encore une fois, pourquoi le nier? Il a eu le coup de foudre d'une manière ou d'une autre. Il faut quand même pas oublier, un, qu'il l'épouse. Parce qu'avec César, c'était sa maîtresse. Elle est l'épouse d'Antoine. Alors, bien sûr, pas aux yeux de la loi romaine, puisque un Romain peut pas épouser une étrangère. Mais pour la loi grecque, pour Cléopâtre, c'est son mari. Ils ont quand même 3 enfants ensemble. D'accord, il y a des jumeaux. Mais enfin, ils ont 3 enfants ensemble. Donc, si vous voulez, elle a peut-être l'illusion qu'avec ce Romain qui est bien ancré, en quelque sorte, en Égypte, dont elle finance les guerres, dont elle finance les expéditions vers l'Est, contre les Parthes, dans le Caucase, expéditions bon, qui n'ont pas un grand succès, mais elle se dit, dans le fond, là, j'assure peut-être la survie de la dynastie. Donc, c'est quelque chose d'important.
L'écho de cette vie somptueuse et démesurée d'Antoine et Cléopâtre est arrivé jusqu'à Rome. Et à la Curie, devant les sénateurs, Octave, le fils adoptif de César, se plaît à se moquer d'Antoine.
Il n'y a rien de nouveau. Car depuis bien des années, Antoine a l'habitude de se nourrir des miettes que son ami César laissait tomber de sa table.
Je dis qu'ils se méritent bien l'un et l'autre, qu'ils demeurent en Égypte.
En 40 avant notre ère, même s'ils sont alliés, Octave cherche à discréditer Antoine. Le premier règne sur l'ouest du territoire romain et le second représente l'autorité de Rome à l'est. Successeurs de César, l'un et l'autre incarnent le pouvoir romain. Antoine serait volontiers resté en Égypte, loin d'Octave, mais la situation militaire dans l'est de la Méditerranée lui impose de rentrer en Italie.
Au printemps 40 avant notre ère, Marc-Antoine est contraint de quitter Cléopâtre. Il se rend en Italie pour rencontrer son collègue triumvir Octave, parce qu'il faut organiser notamment la lutte contre les Parthes. Hein. Les Parthes, au printemps 40, ont envahi la Syrie romaine. Donc il faut mettre au point la riposte contre les Parthes, entre autres problèmes, entre autres difficultés. Alors il rencontre Octave à Brindes, l'actuelle Brindisi, dans le sud de l'Italie. Et c'est là qu'un accord est conclu. Marc-Antoine, justement, vient de perdre sa femme. Son épouse officielle, Fulvie, est morte. Et Octave lui propose d'épouser sa sœur Octavie. Ce que Marc-Antoine, évidemment, accepte. Il épouse Octavie. Mais Octave le prévient. Attention, hein, tu ne vas pas retrouver ta prostituée égyptienne. Je prendrai cela comme une humiliation personnelle. Hein. Et Marc-Antoine lui fait évidemment la promesse de ne plus jamais retomber dans les bras de Cléopâtre.
Le dîner ne te plaît pas, Marc-Antoine ?
Mais si, beaucoup, mais je n'ai pas particulièrement faim.
S'il y a quelque chose qui puisse mieux te plaire.
Mais non, crois-moi, cela me plaît, Octavie. Les dieux savent que tu fais toujours tout pour me plaire, de toutes les façons.
Alors il vit pendant 3 ans avec sa femme Octavie à Athènes, mais en 37 avant notre ère, il veut mener une expédition punitive contre les Parthes et il part en Orient et il donne à nouveau rendez-vous à Cléopâtre en Syrie, officiellement pour préparer son expédition militaire contre les Parthes. Il a renvoyé auparavant son épouse Octavie à Rome, soi-disant pour la mettre en sécurité.
En vérité, la passion d'Antoine pour Cléopâtre ne s'est jamais tarie. Et au prétexte d'une alliance militaire contre les Parthes, Antoine décide d'envoyer son lieutenant comme émissaire à Alexandrie. Ce messager, nommé Fonteius Capito, est porteur d'une lettre dans laquelle Antoine propose à la reine d'Égypte de le rejoindre.
Elle accepte l'invitation, fait voile vers la Syrie et le rejoint à Antioche, où il l'attend.
Cléopâtre, mon ami, mon cœur, ma passion. Non, je ne méritais pas que tu viennes. Ah non, je ne méritais pas que tu répondes à mon appel.
Je n'ai pas hésité, Antoine. À peine ton messager s'était-il tu que j'ordonnais les préparatifs du voyage.
Nous ne nous quitterons plus, Cléopâtre. Seul, le trépas pourra désormais nous séparer.
C'est le désir le plus cher à mon âme. Mais je ne saurais te partager, Antoine, avec une autre femme qui te déroberait à moi. Tu te sépareras d'Octavie. Tu la répudieras, tu divorceras. Jamais plus il ne sera question d'elle.
Je divorcerai, Cléopâtre.
Alors Cléopâtre, évidemment, est très heureuse. Après cette traversée du désert qui a duré 3 ans, enfin, elle a des nouvelles de Marc-Antoine et c'est à nouveau la vie comme avant durant l'hiver 41-40. Elle profite aussi des retrouvailles pour présenter à Marc-Antoine ses 2 enfants. Elle a eu des jumeaux, elle a accouché en 40 d'Alexandre et de Cléopâtre, un garçon et une fille qui sont jumeaux et qu'elle a d'ailleurs surnommés Hélios et Sélénée, soleil et lune, comme les astres jumeaux dans la mythologie grecque.
Et alors maintenant qu'elle a récupéré Marc-Antoine, que cherche-t-elle à obtenir de son amant retrouvé ?
elle profite de ses retrouvailles avec Marc-Antoine pour lui demander un certain nombre de cadeaux. Alors, que veut-elle? De quoi a-t-elle besoin? En 41, elle avait déjà obtenu la mort de sa sœur Arsinoé IV, que Jules César n'avait pas voulu mettre à mort. Il l'avait envoyée en Asie mineure dans le temple d'Artémis à Éphèse. Et donc, pour faire plaisir à Cléopâtre, Marc-Antoine fait tuer Arsinoé IV en 41 avant notre ère. C'était une rivale potentielle, elle s'était d'ailleurs révoltée contre Cléopâtre au moment de la guerre d'Alexandrie en 48 avant notre ère. Donc Cléopâtre voulait évidemment se débarrasser de sa sœur. En 37, elle demande des territoires à Marc-Antoine. Elle veut reconstituer en partie l'empire de ses prédécesseurs, mais au sein du monde romain.
Par ton autorité comme proconsul de Rome, tu vas céder à l'Égypte immédiatement les pays dont les noms suivent. Judée, Jordanie, Arménie, Phénicie, les provinces du Sinaï et d'Arabie. Et les îles de Chypre et de Crète.
Alors, elle reçoit de Marc-Antoine la Cilicie notamment, un territoire qui se trouve au sud de la Turquie actuelle, de l'Asie mineure. Elle reçoit la Phénicie, le Liban actuel, ainsi que d'autres territoires en Syrie du Sud, les territoires palestiniens d'aujourd'hui, la région de Jéricho, le golfe d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie actuelle. Mais tous ces territoires ne sont pas retirés de la domination romaine, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Le mini-empire de Cléopâtre est un mini-empire client, un mini-empire ami au sein du monde romain. C'est la propagande d'Octave qui va faire croire, au contraire, que Marc-Antoine, charmé par sa maîtresse, retire des territoires au peuple romain pour les livrer à sa maîtresse égyptienne qui l'aurait ensorcelé.
Tu obtiendras aussi la reconnaissance de Césarion comme héritier du trône.
Je l'obtiendrai.
Tu feras rétablir toute la puissance des anciens pharaons.
Mais elle sera rétablie.
Elle n'est pas reine simplement d'Égypte, en Égypte, elle est reine en Syrie, elle est reine à Chypre, elle est reine même en Transjordanie, en Syrie du Sud et en Crète. Et donc, il y a un début de réalisation.
Donc Antoine lui permet une restauration territoriale d'un empire ptolémaïque.
Absolument. Elle réussit ce tour de force d'obtenir, même quand c'est parfois un peu symbolique, quelque chose qui rappelle, qui évoque en tout cas le royaume de ses ancêtres. Et c'était pas gagné d'avance. Évidemment, ça va nourrir la propagande d'Octave qui va accuser Antoine de tous les maux de la terre en disant il brade l'empire, alors qu'il brade rien du tout.
Antoine ne brade rien. Il fait de la politique avec un sens pratique. Mais à Rome, l'entourage d'Octave ne l'entend pas de cette oreille.
Je ne peux continuer plus longtemps à excuser Antoine. Osez épouser cette Égyptienne selon leur rite barbare.
Sans valeur devant la loi romaine.
Marc-Antoine a épousé Cléopâtre, répudiant la sœur d'Octave. Et il offre à la reine d'Égypte un nouveau titre.
En 34, Marc-Antoine va lui donner officiellement le titre de reine des rois, ce qui veut dire qu'elle est la reine, la souveraine la plus importante dans cette organisation, dans cette administration de l'Orient sous domination romaine. Elle règne sur les autres rois clients, elle a un statut supérieur. Et d'ailleurs, elle a même des rois clients qui sont ses enfants, avec Marc-Antoine, puisque Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, et puis plus tard le troisième enfant Ptolémée Philadelphe, reçoivent le titre de roi. Donc on est vraiment dans cette fusion avec Rome. Ce n'est pas un retour à l'indépendance du royaume des Ptolémées, c'est un retour à la puissance, mais en association étroite avec l'Empire romain dans le monde romain.
Et Antoine va pousser un peu plus loin la démonstration symbolique de son union avec Cléopâtre. À l'été 34 avant notre ère, Antoine rentre d'une expédition victorieuse en Arménie.
Là, il y a d'immenses fêtes à Alexandrie. Et les enfants ont un petit peu grandi, et on leur partage quasiment l'univers, l'Est à l'un, l'Ouest à l'autre, mais y compris de territoires qu'il ne contrôle absolument pas. Et je crois que, autant les donations de 37 étaient des donations réelles, autant en 34, il s'agit d'une sorte de symbolique royale, d'associer l'ensemble des enfants, cette fois-ci, à la royauté. D'abord, on leur a installé des petits trônes sur une estrade. Ils ont tous le titre de roi. Et Ptolémée Césarion, lui, roi des rois. Comme sa mère Cléopâtre sera reine des rois. Donc là, on est dans le symbolique. Ce qui est tout à fait autre chose. Tout le monde sait bien que le petit Hélios va pas aller régner en Macédoine et d'autres en Arménie, puisque de toute façon, ils n'ont jamais mis les pieds et que les Romains ne tiennent pas forcément. En tout cas, elle a réussi son objectif, une partie au moins de ses objectifs. Et je crois qu'elle l'a réussi par l'intelligence politique qu'elle a eue.
Après la célébration de cette victoire, qui ressemblait à un triomphe romain à Alexandrie, sacrilège, Octave s'inquiète sévèrement des ambitions d'Antoine. De cette union entre Antoine et Cléopâtre, Octave craint une nouvelle dynastie en Égypte dont le descendant serait Césarion, le fils de César. Une sorte d'empire oriental qui pourrait concurrencer l'hégémonie de Rome. Alors, en janvier 33, Octave décide d'intervenir publiquement au Sénat. D'abord, il rejette l'idée que Césarion soit légitime. Ensuite, il s'attaque au testament d'Antoine.
« Quand il sera mort, écrit-il, quand Marc-Antoine sera mort, c'est sa volonté la plus formelle d'être inhumé dans sa chair à Alexandrie, en Égypte, parmi les Égyptiens, près de la cata égyptienne qu'il adore. »
Cette politique de Marc-Antoine est perçue comme une véritable trahison. Il aurait complètement, enfin, démissionné en quelque sorte. Il aurait trahi même sa romanité, voire sa virilité, pour devenir une espèce d'eunuque au pied de la reine d'Égypte qu'il aurait complètement ensorcelé par ses filtres magiques. Octave est vraiment un excellent stratège. Il sait manipuler l'opinion publique romaine et il se fait le champion de la romanité contre Marc-Antoine qui aurait abdiqué au contraire, sa virilité, sa romanité dans les bras de Cléopâtre. Et tous ces dons de territoire sont vus comme des trahisons. Alors, il n'y a pas que des territoires d'ailleurs, il y a aussi la bibliothèque de Pergame. Cléopâtre demande aussi à Marc-Antoine de lui donner les livres qui se trouvaient à Pergame en Asie mineure. Pergame avait été la capitale d'un autre royaume hellénistique et c'était la deuxième grande bibliothèque du monde hellénistique. Et Cléopâtre a ce désir de recréer, de refonder l'empire de ses ancêtres, mais en étroite association avec Rome. Et ce que fait Marc-Antoine est tout à fait pertinent, parce que il est en charge de l'administration de l'Orient romain, et traditionnellement, c'est le pouvoir romain qui crée les rois, qui défait les rois. On peut modifier aussi le territoire dominé par les rois clients. D'ailleurs, par la suite, Octave, devenu l'empereur Auguste, ne s'en prive pas. C'est l'autorité romaine qui confie ou qui retire les territoires au roi client. Donc il est parfaitement dans son rôle et c'est tout à fait pertinent parce que, par exemple, quand il donne la Cilicie à Cléopâtre, Cléopâtre rattache du coup administrativement la Cilicie à Chypre. Et ça fait donc un grand ensemble qui produit notamment du bois, la matière première que Cléopâtre utilise dans les chantiers navals d'Alexandrie pour fabriquer de nouveaux bateaux. Elle a une flotte de 200 navires qu'elle met au service de Marc-Antoine et de la puissance romaine. Donc c'est même pertinent d'une certaine manière parce que ça permet à Cléopâtre de gérer elle-même son approvisionnement en bois pour la flotte qu'elle met au service de Marc-Antoine.
Peuple romain, qu'est-ce que la gloire et l'empire pour le peuple? Leur grand Antoine est-il content? Alors, eux aussi le sont. Est-ce que leur grand Antoine balait l'empire sous le lit de sa belle Cléopâtre? Alors, ses adorateurs romains se réjouissent et sont plus contents que jamais.
Né en 63 avant notre ère, petit-neveu de Jules César, puis devenu son fils adoptif par testament, Octave, le consul de Rome, était un être complexe, selon les textes anciens.
Suétone, vie des 12 Césars, deuxième siècle de notre ère. Octave avait tant de douceur et de sérénité dans le visage. Il avait les yeux vifs et brillants. Il voulait même qu'on les crût doués d'une force en quelque sorte divine. Aussi, quand il regardait fixement quelqu'un, était-il flatté de voir qu'on baissait les yeux, comme devant le soleil.
En 33, Octave a 30 ans, et soucieux d'être l'unique héritier politique de César, il voit d'un très mauvais œil la passion politico-amoureuse d'Antoine et Cléopâtre à Alexandrie.
Progressivement, donc, on se dirige vers une nouvelle guerre civile. En 32 avant notre ère, Marc-Antoine répudie Octavie, ce qui est évidemment très humiliant pour Octave.
Christian-Georges Schwenzel, historien.
Alors, il y a d'abord une guerre des propagandes. Il faut bien comprendre que la propagande n'a pas été inventée à l'époque contemporaine. On a déjà là un bel exemple de propagande dans l'Antiquité. Octave, qui sait manipuler l'opinion publique, déclare en 32 la guerre à Cléopâtre uniquement, et non pas à Marc-Antoine. Il ne veut pas dire que c'est une nouvelle guerre civile qui secoue le monde romain, c'est une guerre contre une femme, une reine étrangère qui menace Rome. Il est le seul à incarner la romanité, selon sa propagande. Marc-Antoine est un traître qui a renié la romanité. Il n'est plus romain, il est devenu égyptien au pied de Cléopâtre.
Octave a donc orchestré une propagande contre Cléopâtre. Une propagande qui cache en réalité un autre but politique.
Alors le vrai désir, c'est en fait de conquérir la totalité de la Méditerranée. Donc les Romains ont enfin l'occasion de mettre la main définitivement sur l'Égypte et finalement de l'annexer en cas de victoire, bien entendu.
Et quel prétexte prend-il, Octave, pour justifier cette opération militaire ? Bernard Legras.
Alors le prétexte est tout simple, c'est le fait qu'Antoine est entre les mains d'une souveraine étrangère qu'il a ensorcelée, qu'il a charmée. Donc Antoine n'est plus maître de ses désirs et maître de son autorité. Donc il le déchoit de tous ses titres, de tous ses commandements, et désormais donc il mène la guerre, une guerre contre l'étrangère.
Suite à la propagande d'Octave, le peuple romain soutient son opération militaire. Octave et Antoine vont donc s'affronter.
Alors, la grande bataille, finalement décisive, elle a lieu le 2 septembre 31 avant notre ère, à Actium. On est au niveau du golfe d'Ambracie, dans le nord-ouest de la Grèce. Et c'est là que Marc-Antoine et Cléopâtre se laissent prendre au piège par Octave et surtout par Agrippa. Agrippa est un ami d'enfance et c'est aussi un grand stratège, notamment pour tout ce qui est bataille navale. C'est l'amiral de la flotte d'Octave. Il réussit progressivement à couper Marc-Antoine et Cléopâtre de leurs arrières et Marc-Antoine et Cléopâtre se retrouvent prisonniers dans le golfe d'Ambracie.
Plutarque, premier siècle de notre ère. Cette bataille navale ressemblait donc à un combat de terre, ou plutôt au siège d'une ville. 3 ou 4 galères d'Octave se réunissaient pour attaquer un seul vaisseau de Marc-Antoine, avec des épieux, des piques et des traits enflammés. Et les galères de Marc-Antoine faisaient pleuvoir des batteries de leur tour, une grêle de traits. Le combat était encore douteux et la victoire incertaine, lorsque tout à coup, les 60 vaisseaux de Cléopâtre, déployant les voiles pour faire leur retraite, prirent la fuite à travers les galères qui combattaient.
Alors le 2 septembre 31 avant notre ère, Cléopâtre et Marc-Antoine tentent de briser, de forcer le blocus pour prendre la fuite. Ils y parviennent après quelques heures de combat, et Cléopâtre réussit en premier lieu à traverser les lignes ennemies avec le trésor en plus, son trésor qu'elle porte avec elle sur son bateau. Et là, Marc-Antoine suit Cléopâtre et abandonne les troupes terrestres, à peu près 80 000 hommes, qui campaient non loin de là, à Axiom, à proximité de ce golfe d'Ambracie. Et alors, c'est pas, d'un point de vue militaire, une défaite atroce, puisque Marc-Antoine et Cléopâtre s'en sortent quand même vivants. Ils reviennent à Alexandrie, ils ont aussi sauvé leur trésor, mais c'est une catastrophe. Les conséquences sont catastrophiques parce que l'armée qui a été abandonnée par son chef, l'armée de terre, passe à Octave. Marc-Antoine est considéré comme un véritable traître, un déserteur. Pour suivre la reine d'Égypte, il a abandonné ses soldats. Et ensuite, on a toute une série de défections. Les divers collaborateurs d'Antoine passent du côté d'Octave, qui finit par prendre l'Égypte. Il pénètre dans Alexandrie au début du mois d'août 30 avant notre ère.
Après cette déroute navale à Axiom, Antoine et Cléopâtre ont vite regagné Alexandrie, pas vraiment conscients de leur situation militaire.
Alors, quand Marc-Antoine et Cléopâtre reviennent à Alexandrie, ils sont dans un état d'esprit assez curieux, parce que dans un premier temps, ils célèbrent un triomphe, comme si jamais Axiom avait été une victoire. Et en fait, ils préparent la suite des combats. Cléopâtre va mobiliser ses ressources financières, elle va confisquer des biens, elle va augmenter le nombre de taxes, et mobiliser l'armée ptolémaïque pour continuer la guerre, à la fois sur le plan naval et sur le plan terrestre. Et donc, cette mobilisation des forces pour continuer la guerre va se solder par une série de défaites, de déceptions qui vont aboutir en effet à la démoralisation totale d'Antoine.
Marc-Antoine, il est mort à Axiom, en s'enfuyant. Tu as mendié un pardon de moi pour t'être enfui. Tu as pleuré et donné tes raisons. Une mère pour son fils et une reine pour son pays. Mais où donc dois-je mendier et pleurer? Devant qui, dis-moi? Devant des centaines et des centaines de soldats qui n'entendent plus? Quand je t'ai vu partir, je n'ai rien vu, pensé, entendu, ni su, excepté que tu partais. Je ne voyais ni les agonisants, ni Rome, ni l'Égypte, ni la victoire, ni la défaite, l'honneur ou la disgrâce, amis, ennemis, avenir ou passé. Je ne voyais que mon amour, qui fuyait, avec qui je devais fuir. Que mon amour, mon maître, qui appelait.
Alors, la propagande romaine a tenté de nous faire croire après coup que Cléopâtre avait trahi Marc-Antoine lors de la bataille d'Axiom en s'échappant, en ne venant pas à son secours. Qu'en est-il vraiment, Bernard Legras ?
Alors, c'est une grande difficulté d'interprétation. Effectivement, Cléopâtre est parti avec ses navires, avec les 60 navires, sains et saufs, vers Alexandrie. Donc la flotte ptolémaïque est intacte. Et il faut souligner que sur les navires, il y a des soldats, hein, donc il y a des fantassins qui peuvent encore combattre, et puis également des richesses. Donc on sait que Cléopâtre a emporté une partie du trésor royal à Axiom, et ce trésor est encore utilisable pour financer la guerre qui continue.
Oui, parce que pour contrarier cette légende de la fuite de Cléopâtre, il fallait avant tout, vous l'avez dit, protéger le trésor qui sert à payer les soldats, qui sert à s'armer. Cette fuite était aussi une sorte de pensée à l'avenir aussi, sans doute.
Oui, c'est une manière de préserver pleinement l'avenir. Et on a même pensé que cette fuite était pensée à l'avance. Donc que le vrai plan d'Antoine et de Cléopâtre était de faire semblant de combattre à Axiom et de partir à la première occasion pour faire le combat décisif ailleurs.
Alors, réfugiés à Alexandrie, déprimé, désabusé, amer. Marc-Antoine attend, Cléopâtre aussi, et voilà qu'Octave va assiéger, il arrive sur les rives d'Alexandrie, il va assiéger la ville. Comment réagit Cléopâtre ?
Cléopâtre va dissocier son sort de celui d'Antoine. Elle veut déjà sauver son royaume. Visiblement, sa grande idée, c'est d'abandonner Antoine, de lâcher Antoine, lâcher son allié, d'autre part, de maintenir la dynastie ptolémaïque. Et pour cela, elle accomplit un acte fort, livrer sa flotte à Octave, et donc elle n'a plus véritablement de force militaire.
Soudain, le pragmatisme, si cher au cardinal Mazarin, dicte à nouveau la marche à suivre pour la reine d'Égypte.
Alors Cléopâtre, en tout cas selon Plutarque, elle aurait négocié secrètement avec Octave. Octave lui laisse entendre qu'il serait prêt éventuellement à la laisser en vie, voire à lui laisser son trône si elle parvenait à se débarrasser de Marc-Antoine. Alors c'est ce que raconte Plutarque, mais c'est quand même assez crédible. Octave veut se débarrasser de Marc-Antoine. Marc-Antoine est certes un mauvais impérateur, un mauvais chef militaire romain, mais il est quand même sympathique. Il est inconcevable pour Octave de traîner dans les rues de Rome Marc-Antoine, un impérateur romain lors du triomphe d'un autre impérateur. Donc il faut s'en débarrasser. Par contre, il veut maintenir en vie Cléopâtre pour s'emparer de ses trésors d'abord, parce que c'est une reine très très riche. Il craint qu'elle mette le feu à son palais et qu'elle détruise ses trésors. Et puis, il veut aussi la traîner dans les rues de Rome. Après toute cette propagande qu'il a lui-même orchestrée et déchaînée contre cette reine, cette femme fatale, cette prostituée, on imagine le succès qu'il aurait obtenu à Rome lors de son triomphe, traînant derrière son char cette femme décriée par la propagande.
Il faut la prendre vivante. La deuxième entrée de Cléopâtre dans Rome surpassera la première.
Est-ce que vous sous-entendez dans ce que vous dites qu'elle aurait été prête à trahir Marc-Antoine pour sauver son royaume?
Alors on ne saura jamais si elle était réellement prête à trahir Marc-Antoine pour sauver son royaume. En tout cas, c'est ce que suggère Plutarque, et ce n'est pas forcément totalement impossible. Elle pense à elle, elle pense aussi à Césarion, et elle sait sans doute que Marc-Antoine est perdu. Alors elle va provoquer, du coup, selon en tout cas le récit de Plutarque, le suicide de Marc-Antoine. Elle fait annoncer à Marc-Antoine qu'elle-même s'est suicidée, donc elle, c'est une ruse, elle ment évidemment. Marc-Antoine se suicide à son tour, mais ne se frappe pas assez fort, il se rate. Il est mauvais finalement jusqu'au bout, c'est un mauvais impérateur, il rate même son suicide. Et alors un des serviteurs de Cléopâtre qui se trouvait là pour vérifier que Marc-Antoine était bien mort annonce à la reine que non, il est à l'agonie, il n'est pas encore mort. Cléopâtre le fait chercher et il va mourir dans les bras de Cléopâtre.
Marc-Antoine est mort! Marc-Antoine de Rome n'est plus de ce monde!
Marc-Antoine est mort. Il avait 53 ans. Octave, victorieux, entre alors dans Alexandrie avec ses troupes. Cléopâtre appréhende la situation, mais elle ne veut pas renoncer à son horizon politique.
Le but de Cléopâtre, c'est de convaincre Octave de maintenir son royaume comme état indépendant, même si ça deviendra évidemment un royaume allié de Rome, donc finalement sujet de Rome, mais de maintenir à la fois son royaume et la transmission du pouvoir à Césarion.
Pour se donner un peu de temps, Cléopâtre pense s'être mise à l'abri dans un lieu sûr. Mais dès leur arrivée à Alexandrie, les soldats d'Octave s'activent.
Majesté, nous avons trouvé la reine Cléopâtre, enfermée dans un mausolée. C'est, semble-t-il, sa tombe. Fais vite.
Inquiet, Octave craint que Cléopâtre ne se suicide comme Marc-Antoine.
Alors, dans un premier temps, donc, elle se réfugie dans son tombeau, mais elle est capturée par les hommes envoyés par Octave, qui la place ensuite en résidence surveillée au palais.
Tu n'as pas à incliner la tête devant César.
Jamais je ne le fis. Mais s'il était là, je le ferais avec joie.
Il est là. Je suis César.
Si cela te fait plaisir, Octave.
Regarde-moi.
Si cela te fait plaisir.
Après toutes ces années et tous ces événements, tu es toujours aussi resplendissante, si j'ose dire.
Tu m'en vois flattée.
N'y décèle rien de personnel. S'il était dans tes intentions...
À présent, c'est toi que tu flattes.
La lutte vient de prendre fin.
Et là, Octave vient la voir, une entrevue a lieu. Elle aurait tenté de le séduire. Elle est très peu vêtue, nous dit Plutarque. Alors c'est peut-être la chaleur du mois d'août qui explique aussi sa tenue. Elle se jette aux pieds d'Octave, enfin exactement comme elle l'a fait avec Jules César, puis avec Marc-Antoine. Mais Octave n'est pas du tout sensible à son charme. Il lui dit « Femme, relève-toi, va t'asseoir sur ta couche ». Et là, elle comprend qu'Octave ne l'a laissé en vie que pour l'humilier à Rome, pour la traîner derrière son char lors de son triomphe. Elle décide, du coup, de mettre fin à ses jours.
Plutarque, vie d'Antoine, premier siècle de notre ère. Cléopâtre commanda qu'on lui préparât un bain. Quand elle l'eut pris, elle se mit à table, où on lui servit un repas magnifique, pendant lequel il vint un homme de la campagne qui portait un panier.
Alors là, malheureusement, enfin, il faut dire que les historiens sont complètement tributaires de la vision que nous donne Plutarque, qui est en gros la seule source sur la mort de Cléopâtre. Alors que raconte Plutarque ? Plutarque nous dit que selon un scénario prévu à l'avance, elle se fait apporter un serpent dans un panier de figues par un paysan.
Les gardes lui ayant demandé ce qu'il portait, le paysan ouvrit le panier, écarta les feuilles et leur fit voir qu'il était plein de figues.
Alors le paysan se présente. Les gardes qui se trouvent devant la chambre de Cléopâtre demandent au paysan « qu'est-ce que tu as là dans ton panier ?» Et il répond de manière tellement naturelle « c'est des figues, tenez, prenez-en une » que les Romains le laissent entrer.
Les gardes, ayant admiré leur grosseur et leur beauté, cet homme, en souriant, les invita d'en prendre. Son air de franchise écarta tout soupçon et on le laissa entrer.
Et là, Cléopâtre tend le bras, elle prend une figue et elle se fait mordre par le serpent qui mord trois fois, puisqu'elle a deux suivantes avec elle qui auraient également été mordues par le serpent en question. On n'a pas retrouvé le serpent, il serait sorti sans doute par la fenêtre et on aurait trouvé des œufs de serpent d'ailleurs sous la fenêtre de Cléopâtre, selon les enquêteurs romains dépêchés par la suite par Octave. Ça, c'est la version racontée par Plutarque.
Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Elle est crédible, cette version, ou pas ?
Alors, il faut dire que c'est la seule version. Enfin, ça paraît très romanesque. Ce n'est peut-être pas totalement impossible, parce qu'on sait qu'il y avait quand même des charmeurs de serpents dans l'Égypte antique. Il y avait des charmeurs de serpents à la cour des souverains ptolémaïques. Cléopâtre a pu préparer sa mort aussi avec Olympos, son médecin. Plutarque nous raconte qu'elle avait fait des essais de poison sur des condamnés à mort. Elle a pu passer ensuite à l'étude des venins et trouver peut-être un serpent dont la morsure provoque une mort qui n'est pas douloureuse. Peut-être un certain type de cobra. Qu'on aurait pu mettre en état de catalepsie, on aurait pu l'endormir et le placer au fond d'un panier, peut-être, pourquoi pas, il n'aurait pu se confondre avec le panier lui-même. Et puis les gardes romains, de toute façon, postés devant la chambre de Cléopâtre, cherchent un couteau, une aiguille qui aurait pu contenir un poison et non pas un serpent. Elle a pu éventuellement ranimer le serpent. Alors, Octave, ensuite, fait intervenir des psylles. Comme on disait, les psylles sont des charmeurs de serpents originaires de Libye, donc des spécialistes des serpents, qui auraient tenté d'aspirer avec leurs lèvres le venin du serpent en appliquant leurs lèvres sur les blessures qui avaient été décelées au niveau du bras de Cléopâtre. En tout cas, c'est cette version qui finalement a été retenue par Octave et lors de son triomphe à Rome, à défaut de la reine égyptienne, il a exhibé une statue qu'il a spécialement fait réaliser pour son triomphe, une statue représentant Cléopâtre avec un serpent enroulé autour du bras.
La mort de Cléopâtre. Une page classique. Ayant appris qu'Octave allait la faire prisonnière et se proposait de lui faire suivre, enchaîner son char à Rome lors de son triomphe, elle se fit piquer par un aspic. Octave, magnanime, la fit inhumer auprès d'Antoine avec les honneurs dus à une reine.
Cléopâtre a donc opté pour le suicide. Mais ayez en tête que c'est le choix d'une femme politique qui a souhaité mourir en reine libre et non pas en prisonnière d'Octave.
Alors ce qu'elle veut, c'est échapper à l'humiliation du triomphe, ça c'est tout à fait clair. Ce qui est moins clair, bien entendu, c'est les bénéfices pour le futur qu'elle espère de cette mort. Et bien entendu, la grande question, c'est de savoir dans quel état d'esprit est-elle quand elle décide de se suicider. Est-ce qu'elle veut mourir à l'égyptienne, ce qui lui permet de recueillir l'apothéose et d'être pleinement reine aux yeux des Égyptiens? Ou est-ce qu'elle veut mourir à la grecque? Alors, c'est un suicide héroïque, bien connu, beaucoup de vaincus, romains ou grecs d'ailleurs, décident de se suicider pour ne pas tomber entre les mains du vainqueur.
Alors, suicide grec ou suicide égyptien?
Alors, selon moi, c'est un suicide à la grecque. C'est vraiment un suicide qui est inspiré et à replacer dans le contexte philosophique d'Alexandrie. Et là, il faut revenir sur l'effervescence intellectuelle de la philosophie alexandrine, en particulier avec deux écoles très bien représentées à Alexandrie, l'école des stoïciens et l'école des cyrénaïques. Et ces deux familles philosophiques ont un regard très favorable sur le suicide, avec un certain décalage entre les deux écoles. Pour les stoïciens, le suicide est tout à fait noble. Il montre la vertu de l'homme qui fait preuve d'un très grand courage face aux difficultés de la vie, face à la maladie. Pour les cyrénaïques, c'est un petit peu différent. C'est une véritable, comment dire, propagande pour le suicide. Ils considèrent que la vie sur Terre est une vie de malheur et de détresse, et que finalement, le suicide est une bonne manière de résoudre les difficultés humaines. Le fondateur, enfin l'un des principaux représentants de cette école, Hégésias de Cyrène, sera d'ailleurs interdit d'enseignement par les premiers Ptolémées, parce que il avait beaucoup de succès et cela provoquait beaucoup de suicides, une épidémie de suicides.
D'autres sources propose une autre version du suicide de Cléopâtre.
Dion Cassius, Histoire romaine, 3e siècle de notre ère. Personne ne sait au juste comment elle périt. On ne trouva que de légères piqûres à son bras. Quelques-uns rapportent qu'elle avait une aiguille avec laquelle elle relevait ses cheveux, enduite d'un venin, dont la subtilité était telle que, sans faire aucun mal au corps, si peu qu'il fût mis en contact avec le sang, il causait une mort prompte et exempte de douleur. Aiguille qu'elle portait constamment à sa tête, suivant la coutume.
Mais d'autres auteurs nous disent qu'elle se serait donc piquée elle-même avec une aiguille empoisonnée, sans doute un venin de serpent également, mais donc elle se serait administrée elle-même sa mort. Donc on enlève le caractère, disons, spectaculaire du serpent, du petit serpent qui se glisse.
Aux côtés de Cléopâtre, les anciens nous disent aussi qu'il y avait deux servantes qui, elles aussi, seraient mortes empoisonnées. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça, Bernard Legras ?
Alors, on a deux servantes, et finalement, on a leur nom, hein, Aïras et Kermione, et lorsque les Romains découvrent le corps inanimé de Cléopâtre, ils découvrent également les deux servantes. Alors, l'une déjà morte, l'autre chancelante. Donc, ça fait trois personnes qui seraient mortes d'un serpent au même moment. Ça fait beaucoup.
Eh oui. Donc on est plutôt favorable à l'affaire de l'épingle ou de l'aiguille empoisonnée peut-être, non?
Alors l'épingle me paraît une meilleure hypothèse, parce que ça permet de contrôler la nature du poison. Et on sait très bien qu'à Alexandrie, comme dans les autres cours hellénistiques, on connaissait très bien la science des poisons. On savait très bien quels étaient les poisons les plus efficaces, ceux qui administraient la mort, indolore.
Comment réagit Octave à cette mort de Cléopâtre ?
Il est furieux. Il a tout fait pour empêcher cette mort. Il y avait des gardes près de Cléopâtre dont la seule mission était de veiller à maintenir la reine en vie. Donc pour lui, c'est dramatique. D'abord, ses ordres n'ont pas été bien respectés puisqu'elle a tout de même réussi à se tuer. Et puis d'autre part, Cléopâtre ne figurera pas dans son triomphe.
Et donc ce geste en fait une reine libre jusqu'au bout.
Ah, elle a choisi sa mort.
Mourir plutôt que subir, donc.
Absolument.
Cléopâtre est morte en 30 avant notre ère. Elle avait 39 ans et 4 enfants. Que sont-ils devenus ?
Alors, ces 4 enfants ont connu des sorts différents. Bon, la décision la plus rapide qui a été prise, c'est pour Césarion, donc qui est présenté comme le fils de Jules César, donc en fait comme le frère d'Octavien. Alors là s'applique la formule du philosophe Arrios, qui a été un philosophe alexandrin qui était un ami d'Octavien. Il n'est pas bon qu'il y ait plusieurs Césars. Donc Césarion devait mourir, et effectivement il meurt assassiné. Il ne peut pas être un concurrent à Rome d'Octavien, et il ne peut pas devenir éventuellement le successeur de sa mère à Alexandrie.
Donc il est exécuté.
Il est exécuté. Il y a une fille, Cléopâtre, 8, Sélénée, donc la lune, qui va figurer au triomphe de Rome, donc en 29, elle est montrée, humiliée, mais elle survivra, et elle sera mariée à Juba II de Mauritanie, elle aura une dynastie, donc, et on a des représentations de cette femme qui va faire en fait une petite Alexandrie en son royaume de Mauritanie, donc elle garde la vie sauve. Il reste deux enfants d'Antoine et de Cléopâtre, Alexandre Hélios, soleil, et Ptolémée Philadelphe. Nous ne savons pas ce que ces deux derniers sont devenus. Bon, je pense personnellement qu'ils ont été exécutés, c'était vraiment trop dangereux, exactement comme Césarion, parce qu'eux ne pouvaient pas revendiquer, évidemment, peut-être le pouvoir à Rome, c'est pas les fils de César, mais ce sont bien les fils de Cléopâtre.
Quelques jours plus tard, Césarion est assassiné sur l'ordre d'Octave. Rome retourne à sa mission occidentale. L'union des deux mondes n'aura pas lieu. Le rêve de Cléopâtre est mort en même temps que la dernière reine d'Égypte.
Cléopâtre a été momifiée, comme tous ses ancêtres, et son mausolée se trouvait au nord-est d'Alexandrie, dans le quartier des Palais. Son tombeau a certainement été pillé lors de la christianisation de l'Empire romain. Puis, l'édifice a été détruit par un séisme au début du Moyen-Âge. Le corps de Cléopâtre a disparu dans les labyrinthes du temps. Et pourtant, notre reporter Martine Abbat a retrouvé sa trace à la BNF rue Richelieu à Paris, où l'on raconte un tas d'histoires sur la momie de Cléopâtre.
Et parmi ces histoires, il y en a une qui voudrait que, à la Bibliothèque nationale, on ait conservé la momie de Cléopâtre.
Julien Olivier est numismate.
Et qu'elle ait été, à un moment, dégradée, qu'elle est pourrie, et on l'aurait enterrée dans le jardin de la rue Vivienne. Alors je vous donne la légende in extenso dans sa version la plus complète. Bonaparte, en Égypte, avec son armée aurait découvert une momie qui aurait été identifiée comme étant la momie de Cléopâtre. Bonaparte aurait passé sous la tente une nuit avec la momie de la reine au pied des pyramides, et puis il l'aurait ramenée à Paris et confiée au cabinet des médailles, où elle aurait été conservée, exposée, jusqu'en 1870. En 1870, Paris est assiégé par les Prussiens, et on met en sûreté les collections dans les caves. Et c'est dans les caves, à cause de l'humidité, que la momie, qui est un objet fragile évidemment, aurait commencé à moisir, à pourrir, et du fait de l'odeur, et considérant que la momie était perdue, on l'aurait enterrée dans le jardin. Alors, cette légende, évidemment, elle est fausse. Bien évidemment, c'était pas Cléopâtre. Cette momie qui a pourri dans la cave pendant l'année 1870, c'était une momie qui était exposée, et à qui les étudiants de l'école des Chartes, ou même les gardiens, avaient donné un petit surnom. Il y avait une momie qui s'appelait Ramsès, il y en avait une autre qui s'appelait Osiris, et puis celle-ci, ils l'appelaient Cléopâtre. Et celle que tout le monde appelait Cléopâtre a pourri, a priori, et donc on l'aurait enterrée dans le jardin. Et il raconte que d'une nuit, il faisait froid, il tenait la lanterne, c'est quelques-uns, et à se moquer de la momie qui sentait très mauvais, creuser un trou, c'était un potager d'ailleurs, parce que c'est un siège, donc il fallait produire des fruits, des légumes, donc le jardin était un potager. On a creusé un trou, on a enterré la momie là.
En conclusion de ce quatrième épisode, retenez que la mort de Cléopâtre transforme l'Égypte en province de Rome, gouvernée par un préfet romain. C'est la fin du rêve ptolémaïque. Octave, devenu empereur de Rome, a repris la main et il a chargé son entourage de salir la dernière reine d'Égypte.
Properse, poète romain, contemporain de Cléopâtre. Que dire de cette femme qui, naguère, apporta l'opprobre à nos armées, de cette prostituée qui s'offrait à ses esclaves et qui, pour prix de ses faveurs, exigeait de son impudique époux Marc-Antoine qu'il lui ouvrît les portes de Rome et rangea sous son empire notre Sénat.
Cléopâtre, victime de la propagande romaine, c'est l'horizon du dernier épisode. Cléopâtre, le génie politique. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Flora Bernard. Lecture, Véronique Vella, de la Comédie Française. Reportage, Martine Abbat. Assistance éditoriale, Irène Menahem. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Maxime Goudard. Prochain épisode, La Légende Noire. Cléopâtre, le génie politique, est un podcast original de France Inter.